Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP.
Bien, ce matin, nous allons lire un texte biblique dans le deuxième épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 4, et nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 7. 2 Corinthiens, donc. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit que la lumière brille du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà, vous avez ici un très beau texte. Comme d'habitude, Paul est tellement dense qu'on pourrait s'arrêter à chaque mot et trouver des leçons spirituelles dans chaque parole, chaque expression. Mais nous allons retenir une petite chose. Oh, c'est pas une petite chose, c'est un grand mot. C'est l'évangile. C'est, Paul dit, briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Un jour, un pasteur a fait un rêve. Alors, dans son sommeil, il était en train de rêver qu'il était dans son église. Et puis, quelqu'un l'a appelé parce que une personne avait des problèmes. Alors, il est allé avec sa Bible auprès de cette personne qui avait des problèmes, et il a ouvert sa Bible pour lui donner une promesse. Il était très étonné, il manquait des pages dans sa Bible. Alors il avait beau tourner les pages, il ne trouvait pas le texte qu'il voulait lire à cette dame. Alors il était très gêné, et puis il lui a dit, de toute façon, la parole de Dieu, eh bien, vous encourage à persévérer. Et puis, dans la même journée, il a été appelé auprès d'une personne qui était mourante. Et alors, il a ouvert de nouveau sa Bible pour donner des paroles de consolation pour l'au-delà et qu'on va ressusciter tout cela. Et tous les passages qu'il voulait lire, par exemple 2 Corinthiens 15, n'existaient pas dans sa Bible. Il avait beau tourner les pages, pas de consolation, pas d'espérance, rien. Il était très très étonné. Et alors il est rentré chez lui, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec ma Bible? Et il manquait dans sa Bible l'Évangile. L'Évangile était absent et il s'est réveillé de ce cauchemar. Si nous avons une espérance, s'il y a quelque chose, s'il y a un avenir, c'est parce qu'il y a l'Évangile. Hors de l'Évangile, il n'y a pas d'espérance pour ce monde. Quand Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden, ils ont été condamnés par la loi de Dieu. C'est-à-dire que Dieu avait donné une parole, il avait dit, le jour où tu mangeras du fruit, tu mourras. Et ce jour-là, Adam et Ève sont morts. Ils ne sont pas morts physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu. Ils ont été séparés de Dieu d'une manière définitive. C'était un constat dans leur vie. Ils se sont aperçus qu'entre Dieu et eux, et pourtant ils parlaient avec Dieu, il y avait une communication avec Dieu, Dieu était leur créateur, il y avait quelque chose qui se passait entre Dieu et eux. Mais à partir du moment où le péché est entré dans le monde, il n'y avait plus de communication entre Dieu et l'homme. Et Adam et Ève en ont fait la triste expérience. Et c'est eux qui ont commencé ce drame de l'humanité. Quand vous lisez les journaux, quand vous lisez l'histoire du monde, c'est une histoire de drame, de sang, de méchanceté, d'horreur, de conquête, d'exécution. Vous lisez des paroles au sujet des Assyriens, des Babyloniens, des Égyptiens. C'est on coupait des mains, on coupait des têtes, on coupait des pieds, on torturait les gens. Il n'y avait pas de respect de la vie humaine. Et puis un jour, l'Évangile est arrivé. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous. Et alors les choses ont commencé à changer. Il y avait quelques philosophes grecs, et en particulier un que j'aime bien, Épictète, et il disait, mais qui te fait, toi, libre, différent de l'autre qui est esclave? Nous n'avons pas tous le même créateur. Mais je voudrais vous dire qu'Épictète vivait dans une petite ville qui s'appelait Nicopolis. Et Paul a vécu à Nicopolis, au même moment. Alors je me dis, notre bien-aimé Paul, eh bien, a eu un auditeur dans ce philosophe, et il a retracé, dans sa philosophie, il a inclus l'Évangile, l'espérance de l'Évangile. C'est que nous sommes des êtres humains aimés de Dieu, et qu'il n'y a pas de différence entre les êtres humains. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous perdus, mais nous avons tous la même espérance. Nous pouvons tous être sauvés. Nous pouvons tous être nés de nouveau. Nous pouvons tous être réconciliés avec Dieu. Nous pouvons tous lever les regards vers Dieu et dire, Seigneur, sauve-moi. Oh, il suffit pas de grand-chose, hein. Quelques petites paroles. Reconnaître ses péchés, reconnaître que l'on est loin de Dieu, s'humilier devant Dieu et dire, Seigneur, je suis perdu. Et alors on entre dans la grâce de Dieu, dans l'Évangile. C'est la seule condition pour l'Évangile. C'est de se reconnaître pécheur, d'avoir besoin de l'Évangile. Et à partir de là, s'ouvre une nouvelle vie. Et c'est l'espérance de l'Évangile. Parce que l'Évangile, nous prononçons le mot avec beaucoup de facilité. Nous disons c'est l'Évangile, on proclame l'Évangile, on prêche l'Évangile. On a même 4 Évangiles. Et nous parlons de l'Évangile, il y a même des théologiens qui dissertent et qui approfondissent toute la question de l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est encore beaucoup plus que cela. C'est beaucoup plus que tout ce que vous pouvez imaginer. C'est l'Évangile de la grâce de Dieu. C'est l'Évangile de la miséricorde de Dieu. C'est l'Évangile de Dieu que nous pouvons appeler notre Père. C'est là-dessus que je voudrais m'arrêter ce matin. C'est tout ce que nous avons dans l'Évangile. Ce mot contient tellement de choses. Il y a même un moment où les prédicateurs de l'Évangile vont disparaître. C'est dans l'Apocalypse que vous trouvez cela. Il n'y aura plus de prédicateurs de l'Évangile. Parce que l'Antichrist aura tellement massacré de gens qu'il n'y aura plus personne pour annoncer l'Évangile. Et il y a un ange qui porte l'Évangile éternel. Voilà. Un ange qui traverse les cieux avec l'Évangile éternel et qui va annoncer l'Évangile parce qu'il n'y a plus d'être humain pour annoncer l'Évangile. Quand le Seigneur Jésus a parlé aux apôtres, il leur a dit « Allez ». Faites de toutes les nations des disciples. Annoncez-leur l'Évangile. Je raccourcis, hein. Ça va plus loin. C'est la responsabilité de ceux qui ont connu l'Évangile, eh bien, de proclamer l'Évangile. Vous serez mes témoins. Vous rendrez témoignage. Vous parlerez de ce qui vous est arrivé, de votre histoire, de votre relation avec Dieu, de comment il s'est passé quelque chose dans votre vie. Et on rend témoignage. Et je me suis rendu compte à quel point rendre témoignage a une puissance extraordinaire. On dit, voilà, j'étais perdu, j'étais pécheur, et Dieu a usé de grâce et de miséricorde envers moi. Et maintenant, je suis sauvé. Oh, je n'étais pas le dernier des pécheurs. Il y avait des plus pécheurs que moi. Mais néanmoins, j'étais quand même un grand pécheur. Et j'avais besoin de la grâce de Dieu. Et si bien que, eh bien, c'est un message d'espérance que nous apportons jusqu'au bout de la terre. Et même les chrétiens se sont sentis tellement concernés par l'Évangile que dès les premiers jours, la première chose qui est arrivée, c'est quand l'Église a commencé, le premier message qui a été prononcé, c'est un message d'évangélisation. Ce n'est pas un message d'édification ou pour fortifier, Il n'y avait pas de chrétiens à fortifier. Hein, c'était les premiers qui venaient, c'était les 120 disciples, ils étaient devenus chrétiens. Mais c'est tout, après le reste de l'humanité était perdu. Et ils sont allés, et ils ont annoncé l'évangile. Et même Paul pouvait dire, je me suis fait un devoir d'annoncer l'évangile là où il n'avait jamais été annoncé. Et il est allé l'annoncer partout. C'est où il pouvait. Et les disciples sont allés annoncer. Et même les gens d'Éphèse ont proclamé, disons, les orfèvres d'Éphèse ont fait une révolution parce que l'évangile avait tellement triomphé dans les cœurs que les orfèvres faisaient faillite. Ils fabriquaient les idoles. Et les fabricants d'idoles faisaient faillite. Alors ils se sont révoltés, c'est un mouvement social, si vous pouvez imaginer la chose. Ils ont fait la grève, ils ont milité, ils ont occupé la rue. C'est des choses que nous connaissons bien. Hein. C'est arrivé, et c'est rapporté dans les Actes des Apôtres, à cause justement d'une faillite des fabricants d'idoles. Voilà, ils fabriquaient les idoles, et puis comme l'évangile avait tellement porté de fruits, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils étaient obligés de licencier du personnel et que le personnel n'était pas content du tout d'être licencié. Eh bien, évidemment, ce ne sont pas eux qui ont accepté l'évangile. Hein. Ils fabriquaient les idoles, c'était pour eux. Peut-être qu'ils ne croyaient pas à leurs idoles, mais en tout cas, ils gagnaient leur vie avec la fabrication des idoles. Mais la proclamation de l'évangile, du témoignage chrétien, a bouleversé cette région. Et j'imagine que si c'est arrivé à Éphèse, eh bien c'est arrivé ailleurs. C'est arrivé à Rome, à Corinthe, et chez les Galates. Hein. Et puis c'est arrivé jusqu'aux confins de la terre. Un jour, je parlais avec une personne qui est chinoise, et je disais, il y a une pierre commémorative en Chine. Cette pierre date du 8e siècle et il y a le nom des personnes qui sont allées évangéliser la Chine. Voilà, c'est un monument commémoratif, mais il est de cette époque, de l'époque où et il y a le nom en grec de ces missionnaires qui sont allés annoncer l'évangile. C'était des Nestoriens et une partie d'une région, les Ouïghours, ont été évangélisés, ont accepté l'évangile. Je parlais avec cette personne chinoise, elle m'a dit en effet, oui, mais maintenant ils sont tous musulmans. Voilà, l'islam est arrivé, mais l'évangile à un certain moment est arrivé jusque-là. Les gens ont entendu et ont reçu l'évangile, la bonne nouvelle. Et nous sommes ici composés d'une église. Mais elle est loin d'être française. Il y a, je vois, Chinois, Coréens, et puis des Africains, et puis je ne voudrais pas m'avancer, Camerounais, Togolais, etc., etc. Parce que l'Évangile est arrivé plus loin. L'Évangile a été annoncé. L'Évangile est allé et a été reçu. Et c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir se dire que l'Évangile est encore proclamé et il va encore aux confins de la terre et il va encore être la source de salut pour tous ceux qui croient, ceux qui entendent et qui l'acceptent. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez. L'Évangile a une puissance extraordinaire. Paul disait, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est la puissance de Dieu. C'est la dynamite, hein, dynamos, dynamite. C'est la dynamite de Dieu pour faire sauter tous les verrous des cœurs, pour parler et dire, voilà, il y a une espérance. La vie ne s'arrête pas à la mort. Il n'y a pas simplement un moment où vous êtes, vous vivez pas seulement sur cette terre. Vous ne, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? J'ai pas eu de chance dans la vie. Je suis né pauvre. J'aurais pu naître riche. Eh ben, je suis né pauvre. Voilà. C'est comme ça. Et les gens peuvent dire, eh ben, je baisse les bras. C'est la chance. Mais l'évangile est là. Il n'y a pas de chance. Il y a l'évangile. Et n'importe qui peut être sauvé et réconcilié avec Dieu. C'est quelque chose d'immense, quelque chose de Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas un tel qui peut être et l'autre qui ne peut pas l'être. C'est toute personne peut avoir accès à l'Évangile. Et vous dites, mais je n'ai pas eu de chance dans la vie. Oh, vous pouvez avoir une immense, merveilleuse opportunité de recevoir quelque chose qui va bouleverser votre vie. Et tous ceux qui un jour ont accepté l'Évangile peuvent dire, eh bien, j'étais dans la misère. J'étais dans des choses inimaginables. Je me rappelle de cet homme, c'était un grand prédicateur de l'Évangile, il était juif. Et c'était à la fin de la guerre, 39-45, les juifs avaient été persécutés et lui vivait dans la peur constamment. Hein. Et il avait dans sa botte, il avait des bottes parce que c'était pas bien pratique pour mettre caché un couteau d'un côté et un revolver de l'autre. Et il avait donc dans sa botte un revolver prêt à se baisser et il tirait le revolver et il était prêt à tuer toute personne qui voudrait lui. Donc il était très susceptible. Et un jour, il était dans les rues, hein, à Paris, il était en train de bouger pour ne pas. Dans la peur, hein, et puis il se dit je suis suivi, hein. Il y a quelqu'un de la Gestapo qui est derrière. Et il regardait, et puis il est entré dans une salle de réunion, il s'est assis, et il a entendu l'Évangile. Quelqu'un prêchait l'Évangile. Et il m'a dit, tu sais, je me suis senti ridicule d'avoir ce revolver dans ma botte. Je suis là devant l'Évangile. Et il a accepté l'Évangile, il s'est converti. Et ta peur est partie. Il est devenu un prédicateur de l'Évangile. Il s'est beaucoup occupé du travail parmi les Juifs. Donc cet homme a été libéré de sa peur, libéré de toutes ses contraintes. Il a entendu l'Évangile. Quelque chose qui a bouleversé sa vie, qui a changé sa vie, qui a donné une autre direction à sa vie. C'est l'Évangile, ce sont des paroles de consolation. Paul disait que toutes les promesses sont oui et amen. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ, par l'Évangile, parce que le verset que je vous ai lu tout à l'heure, qu'il vise briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Christ et l'Évangile sont absolument liés. Vous ne pouvez pas séparer l'Évangile de Christ, parce que sans Christ, il n'y a pas d'Évangile. C'est dès que l'on prononce l'Évangile, que l'on annonce l'Évangile, eh bien on parle de Christ, de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nos péchés. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous avez des promesses? Elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous lisez votre Bible, vous tournez les pages, vous trouvez des promesses, vous trouvez des consolations, vous trouvez des paroles d'encouragement. C'est oui et amen en Jésus-Christ. Vous êtes né de nouveau, vous êtes réconcilié avec Dieu, alors vous pouvez dire, ces promesses sont pour moi, je les reçois. Et Dieu a donné des promesses merveilleuses qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Et vous pouvez parfois attendre, hein. Parfois vous avez du temps à attendre, parce qu'une promesse se fait attendre. C'est parce que Dieu n'a pas en vue de vous donner ce qu'il promet, il a en vue de faire grandir votre foi. Après, bien sûr, il veut vous donner ce qu'il a promis, mais votre foi est beaucoup plus précieuse que la possession de ce qu'il a promis. Alors, parfois, bien, il faut attendre. Mais les promesses sont là. Vous lisez la parole de Dieu. Oh, je vous encourage beaucoup à lire. Je me rappelle, je tourne une page, clac, je suis juste derrière. 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une promesse immense, magnifique, qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et combien de choses sont dans nos cœurs, dans nos pensées, pèsent sur notre conscience. C'est quelque chose, vous savez. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. C'est toute chose, c'est vraiment toute chose, hein. Et dans le grec, c'est beaucoup plus qu'en français encore. Toute chose, c'est tapanta, si ma mémoire est bonne. C'est tout, vraiment tout. Toute chose. Si vous pouvez exclure quelque chose, et ne pas mettre quelque chose dans toute chose, eh bien, vous aurez de la chance. Mais toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. Et je peux vous dire que ça a été pour moi une consolation que j'ai lu et relu ce verset parce que Satan venait m'attaquer et j'étais troublé. Et j'avais une conscience très, très sensible. Hein, j'ai d'ailleurs toujours. Hein. Il ne faut pas me dire grand-chose pour que je sois troublé. Mais une parole et je me remets vraiment en question. Et donc, je me remettais tout le temps en question sur tout. C'est une pensée, un sentiment et des choses que les gens disent ouais, tu contrôles pas ça. Hein. Ben moi, je me sentais responsable. Alors j'étais vraiment très très troublé, toujours troublé, et j'avais des moments de doute et de crainte. Et je me récitais ce verset : si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une promesse, c'est le roc solide de la parole de Dieu par l'Évangile. Vous avez reçu l'Évangile, vous avez cette promesse. Vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, tout est devenu nouveau. Et j'ai cité cette promesse, mais je pourrais en citer d'autres, qui sont aussi merveilleuses. C'est quelque chose, vous savez, que de pouvoir être consolé. Vous ouvrez votre Bible et vous êtes consolé. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'avais lu un verset, juste avant de me coucher. Alors, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus-Christ. Il y a des promesses dans l'Ancien Testament qui nous concernent. Il y a des promesses qui concernent Israël. Bon, elles concernent Israël, elles ne nous concernent pas à nous. Mais il y a des promesses qui nous concernent. Et alors, j'avais lu Psaume 50, et je ne me rappelle plus, je crois que c'est le verset 9. ma mémoire, j'ai un petit trou. C'est le verset 15. Invoque-moi au jour de la détresse, je t'en délivrerai et tu me glorifieras. Voilà, j'avais lu ce verset juste avant de me coucher, mais c'était dans ma lecture quotidienne. C'était pas, j'ai pas lu le verset. Et je me dis, tiens, c'est une belle promesse. Et je l'ai mise un peu de côté parce que bon, je me sentais pas tellement concerné. Et puis en pleine nuit, je me suis réveillé, mais je me dis, mais je suis dans la détresse. En effet, j'avais de très très graves problèmes, mais j'étais assez insouciant, donc je ne prenais pas, j'ai mis de côté. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as fait une promesse, je te demande d'intervenir. Le lendemain, j'ai tout mis en règle, et avant midi, tout était réglé. Alors, comme il y avait une promesse, tu me glorifieras. Hein? Alors j'ai parlé autour de moi et je suis allé voir des personnes particulièrement incrédules et j'aurais dit Dieu a exaucé, Dieu a répondu à une promesse, voilà. Il n'y a que la main de Dieu qui pouvait faire une chose pareille. C'était impossible, humainement c'était impossible, je rentre pas dans les détails. Et il y en a un, il m'a dit tu as de la chance. Je dis non, je n'ai pas de chance, j'ai Dieu et j'ai les promesses de Dieu. Parce qu'elles sont oui et amen en Jésus-Christ. Vous avez des promesses. Oh, ne restez pas. Vous savez, c'est quelque chose, vous savez, de laisser dormir sa Bible, de la laisser dans un coin, de la prendre que pour simplement une petite lecture. Voilà, bon, ben, ça y est, j'ai lu mon chapitre. Hein. Mais approfondissez, recherchez des promesses. Il est même dans l'épître aux Hébreux, il est dit que par la foi, certains ont obtenu des promesses. Ils ont obtenu des promesses. C'est un combat, c'est une lutte. On dit, Seigneur, fais-moi des promesses. Je veux une promesse. Ouvre-moi des portes que personne ne peut fermer. Interviens dans telle situation et vous avez des promesses. Et Dieu vous parle et Dieu vous montre des choses. Parce que vous prenez la parole de Dieu au sérieux. Vous avez un héritage merveilleux en Jésus-Christ. Nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ. Hein. Co-héritiers, c'est un héritage. Et l'héritage, c'est la parole de Dieu. C'est les promesses de Dieu. C'est tout ce que Dieu en réserve pour vous en Jésus-Christ. C'est quand vous lisez la Bible, ne laissez pas le diable vous la prendre, vous la voler. Et beaucoup de chrétiens sont tellement négligents avec la parole de Dieu qu'ils se sont fait voler leur Bible. Et ils n'ont plus accès à la parole de Dieu. Ils la lisent, oui, c'est juste un livre de lecture. Mais c'est la parole de Dieu. C'est votre héritage. Et Satan essaye de mettre le doute dans vos cœurs au sujet de la parole de Dieu. Oui, mais ce verset a été écrit, mais est-ce qu'il est bien traduit? Est-ce que... Je connais tout ça. Hein. C'est... Je peux vous dire, mettez tout ça de côté. La parole de Dieu est là. Et je peux vous dire, Dieu vous peut vous parler, même avec un verset mal traduit. Et je peux vous dire qu'il y a, c'est dans ma famille, hein, c'est notre premier accès à la parole de Dieu était avec une Bible catholique du chanoine Crampon. Ah ah! Le chanoine Crampon, mais c'est pas 1905, hein, mais parce que le témoin de Jéhovah la recherche celle-là, parce qu'il y a pas, il y a Jéhovah. Donc Crampon a révisé sa Bible après 1905, il l'a fait avec Yahvé, pas Jéhovah. Mais premier accès, c'est ma mère qui avait acheté cette Bible. C'est un prêtre catholique qui a mis en vente la Bible, c'était dans les années 50, hein, il avait mis la Bible au fond de l'église. Il a dit, il y a des Bibles, il y a des Bibles. Quelques mois plus tard, le prêtre qui a été déplacé, il y avait un nouveau qui était là et les Bibles avaient disparu. Et puis, il faut prier pour le père un tel, il a fait naufrage par rapport à la foi. Il s'est égaré dans la foi. Voilà. Ben, je pense qu'il a accédé à l'évangile, il a fait part de la Bible, il a été sauvé cet homme-là, et il a voulu mettre la Bible en vente dans l'église. Et bien sûr, il ne pouvait pas mettre une Bible protestante, ça aurait fait un scandale, mais il a mis une Bible catholique, qu'est-ce que vous voulez. Mais plus tard, eh bien, ma famille a accepté l'évangile. Et je suis là parce qu'une Bible est entrée un jour dans une famille, et c'est une Bible catholique. Et je suis persuadé que même avec une Bible trafiquée comme la Bible des témoins de Jéhovah, quelqu'un peut encore accepter l'évangile et être sauvé. Je fais confiance à Dieu et à la puissance de la parole de Dieu. Même si elle est mal traduite, eh bien, il peut y avoir quelque chose. Et Dieu peut vous parler quand même. C'est dans la Bible, à cause de l'évangile, il y a la consolation de nos cœurs. Dieu parle. Dieu n'est pas silencieux. Nous pouvons adresser des prières à Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, « Mon Père, viens à mon secours. » Quand le Seigneur Jésus a donné la première prière, hein, modèle de prière, hein, vous connaissez le Notre Père. On dit le Notre Père parce que c'est comme par là que la prière commence. Notre Père qui est aux cieux. Mais le Seigneur Jésus a dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux. » Mais quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il a apparu à ses disciples. Il a dit, je vais vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Quand il a donné la première prière, qu'il a donné le modèle de prière, il a dit, vous priez notre Père, mais Dieu n'était pas encore leur Père. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, donné sa vie, mort et ressuscité, il a dit, je vais vers mon Père et votre Père. C'est quelque chose qui dépasse l'imagination humaine. Pouvoir appeler Dieu son Père. Vous avez des... Je reviens à mon philosophe grec, Épictète. Il disait que nous avons une paternité divine. C'est avec les dieux, avec Dieu, avec la divinité. Il disait pas les dieux, hein, il disait la divinité. Mais en fait, parce que... Comme les stoïciens avaient mis de côté le Panthéon, hein. Ils se moquaient un petit peu de tous leurs dieux qui avaient des passions humaines et tout cela. Et même quand un philosophe commençait, il se dit « mais il y a un dieu au-delà ». Et finalement, nous descendons tous de lui. C'est nous avons une origine commune auprès de ce dieu. Mais par l'évangile, nous pouvons pas seulement avoir une petite idée, une opinion, mais nous avons une véritable relation entre Dieu et nous. Nous pouvons appeler Dieu notre Père, et nous pouvons attendre que Dieu nous réponde comme à ses enfants. Et même, dans la première épître aux Corinthiens, Paul disait que ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, séparez-vous. Et puis il dit, je vous accueillerai, et je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Je serai pour vous un père et vous serez des fils et des filles. C'est quelque chose. Si vous avez des enfants, ben, vous savez ce que c'est que d'être un père ou d'être une mère. Je me rappelle, c'était une cour européenne quelconque, je pense que c'était la cour de Suède, et il y avait un ambassadeur d'un pays qui était rentré dans le palais. Il avait été reçu, et puis il y avait tout un protocole, il y avait tout un décorum, il y avait des ceci, il y avait ça, tout ce que vous voulez, un protocole, quelque chose de très contraignant. Et puis, il y a 4 ou 5 petits bambins qui sont arrivés et ils sont sautés au cou du roi et ils sont montés sur ses genoux et il n'y avait plus de protocole pour une seule raison. C'était ses enfants. Tout le reste de l'humanité avait besoin de passer par un protocole et par des rites et des trucs et des machins. Mais les enfants, eux, ils en étaient exempts. Ils pouvaient rentrer en toute liberté. Ils étaient chez eux, c'était chez leur père, c'était chez eux aussi. Alors ce qui est vrai pour des choses humaines est à plus forte raison vrai quand il s'agit des choses spirituelles. Vous entrez dans la présence de Dieu. Bon, bien sûr, on a du respect pour Dieu, parce que c'est Dieu quand même, et nous ne sommes que des humains. Mais c'est notre Père, et nous avons l'audace de lui demander parfois des choses. Seigneur, j'oserais pas te le demander, mais comme tu as dit que tu étais mon père, alors je te le demande. Interviens dans cette situation. Viens à mon secours. Console-moi. Encourage-moi. Donne-moi une promesse. Fais briller ta face sur moi. Éclaire-moi de ta lumière. Je sais pas où je vais. Je sais plus le chemin. Conduis-moi dans le chemin. Ouvre ta voie devant moi. Aplanis ton chemin sous mes pas. Si vous avez des multitudes de paroles que vous pouvez prononcer et vous pouvez dire avec liberté à Dieu, parce qu'il est votre Père. Mais quand vous considérez Dieu, la grandeur de Dieu, l'immensité de Dieu, sa puissance, sa grandeur, ce qu'il est au-delà de toute expression humaine, c'est Dieu. Ce n'est pas un copain, ce n'est pas... mais par Jésus-Christ, par l'Évangile, c'est mon Père, et je peux lui dire. Et puis, tout en restant respectueux vis-à-vis de Dieu, eh bien, je peux avoir de l'audace. Vous avez un homme qui, quoique il n'était pas encore dans l'Évangile, mais il a obtenu le salut par la foi, hein, c'est Abraham. Il a plaidé pour Sodome et Gomorre, et il a eu beaucoup d'hésitations. Et j'oserais encore te demander, est-ce s'il y a 5 justes, détruiras-tu ces villes à cause des 5 justes? Il a osé plaider, mais nous à bien plus forte raison, parce que notre Père Céleste est devenu notre Père. Il n'est plus seulement notre Créateur, il est notre Père. Et nous pouvons plaider pour un monde perdu. Nous pouvons intercéder, nous pouvons assiéger le trône de la grâce, nous pouvons dire « Seigneur, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni, je ne te laisserai pas aller que tu aies répondu à ma prière, je te demande de vraiment intervenir, de faire quelque chose. » Et je peux vous dire, rares sont les chrétiens qui osent plaider, insister au trône de la grâce jusqu'à ce qu'ils obtiennent la bénédiction, la réponse de Dieu. Et qu'il s'en aille avec le cœur, dans le cœur, la consolation, la promesse. Ah, Dieu m'a répondu. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils cessent de parler, j'aurai exaucé. C'est quelque chose, vous savez. Notre Dieu veut nous exaucer. Il veut répondre à nos prières. Parce que nous sommes dans l'Évangile. Parce que pouvons avoir l'audace de le faire. Mais nous avons Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, mais il est notre Sauveur, et nous pouvons nous approcher de lui et dire « Seigneur Jésus, viens à mon secours, tu es mon Sauveur, tu m'as tellement aimé ». Je vous ai souvent raconté cette petite histoire, mais je me rappelle la fois où j'ai découvert l'amour de Christ pour moi. C'était quelque chose, vous savez, c'est ce jour-là, J'avais appris Galates 2:20. C'est le troisième ressuscité de Galates. Hein. Tu as cité les deux premiers, mais, les deux derniers, mais il y a le premier Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Et puis il est dit à un certain moment, le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lui-même pour moi. Et un jour, cette petite phrase, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été brisé, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Je vous le dis sans honte, j'ai pleuré. Le Fils de Dieu qui m'a aimé, il m'a aimé au point de donner sa vie pour moi. Et je me rappelle le jour où c'était ici. J'ai lu un verset, c'est Jean 13, quand le Seigneur Jésus a lavé les pieds des disciples. Il a dit, ayant mis le comble à son amour pour eux. Et là, ici, je me suis effondré. Je dis, Seigneur, tu as mis le comble à ton amour pour moi. Tu m'as lavé de mes péchés. Tu m'as lavé de ma souillure. Tu m'as lavé de tout ce qui pesait sur ma conscience. Tu m'as ouvert le ciel. Tu m'as ouvert une espérance vivante. Tu m'as donné au-delà de toute imagination humaine. Tu m'as donné l'espérance de la vie. Tu m'as donné un jour d'être avec toi pour l'éternité, de pouvoir contempler ta gloire, d'être au pied de ton trône, de pouvoir te dire que je t'aime et que je veux marcher avec toi, que je veux vivre dans tes voies, que je veux marcher sous ta loi, que je veux vivre d'une manière qui te glorifie. Oh, vous savez, notre Dieu, c'est le grand Dieu, mais c'est l'Évangile. Je vous ai parlé de choses personnelles parce que je les connais bien, parce que je les ai vécues. Mais ce qui est personnel pour moi peut être personnel pour vous aussi, parce que je ne vois pas pourquoi Dieu m'aurait parlé à moi et il ne vous parlerait pas à vous. Vous êtes les enfants de Dieu exactement comme moi. Si Dieu m'a fait des promesses, et si Dieu a fait des promesses, je peux vous dire, il y a une promesse que Dieu m'a faite il y a 25 ans. Je criais à Dieu dans une angoisse terrible. Je ne peux pas raconter tous les détails. Mais j'ai crié à Dieu dans une angoisse terrible parce que j'étais vraiment très, très, très mal. Et puis Dieu m'a fait une promesse. C'est seulement au mois de juin, le 12 juin, que la promesse s'est réalisée. 25 ans plus tard, Dieu a répondu. Pas tout à fait 25 ans, c'était au mois de novembre. Ça aurait fait 25 ans. 25 ans, mais j'ai obtenu une promesse parce que j'ai crié à Dieu, il me l'a faite. Mais je vous le dis, parce que s'il le fait pour moi, pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas pour vous? Pourquoi est-ce que vous n'obtiendrez pas des promesses? Pourquoi est-ce que vous ne prieriez pas jusqu'à ce que vous obteniez des promesses? Oh, mais il faut crier dans l'angoisse de son âme. Il faut dire, Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, je suis dans la détresse. Je ne peux pas y arriver tout seul. Je te demande de vraiment intervenir. Fais quelque chose. Dépasse. Oh, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, hein, voudrions parler comme Ésaïe. Oh, Seigneur, viens à mon secours. Oh, j'aimerais tellement que tu viennes. Et il y a des personnes, il y a des moments où dans la prière, nous prions et Dieu descend de son ciel et vient lui-même vous parler et vient consoler votre cœur et vient poser sa bonne main sur vous et vous dire, mon fils, ma fille, n'aie pas peur, je suis là. Pourquoi est-ce que tu t'angoisses comme cela? Est-ce que toutes choses ne sont pas dans ma main? Le Seigneur Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Tout pouvoir, tout. C'est Satan est vaincu. Le monde est vaincu. Oh, bien sûr, il s'agite. Satan laisse croire qu'il fait croire c'est un menteur. Vous n'allez pas croire que c'est un menteur. Et l'apparence de ce monde, tout cela, c'est du mensonge. Parce que nous avons avec nous beaucoup plus qu'ils ont avec Dieu. Nous avons le Fils de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Il est ressuscité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Est-ce que vous avez quelqu'un à craindre? Alors ne craignez plus. Vous êtes avec celui qui est le vainqueur. Il est vainqueur. Il a vaincu. Et Satan a été vaincu. Il a été repoussé. Il n'a plus de pouvoir. Oh, s'il a un pouvoir, si, celui que vous lui donnez. Et ça, c'est vous qui êtes complice. Si vous le laissez faire, c'est que vous avez... Il a raison, il a gagné. Mais ne le laissez pas faire. Il y a les promesses de Dieu par l'Évangile. Vous les avez, les promesses. Alors saisissez-vous par la foi. Ces consolations, ces paroles, tout cela, c'est à vous. C'est votre héritage. Ne vous laissez pas voler. Ne vous laissez pas tromper. Ne vous laissez pas séduire.
Satan est un séducteur et un trompeur. Il est toujours quelque chose à vous dire. Oui, mais tu as lu, mais tu sais, oui, mais c'était du temps des apôtres. Oui, mais nous sommes à la fin des temps. Oui, mais c'était pour les juifs. Mais est-ce que c'est bien traduit? Est-ce que tu l'as bien compris? Est-ce que c'est dans son contexte? Oh, vous en avez des multitudes de choses qui vous viennent à l'esprit à ce moment-là. Mais la parole de Dieu est certaine. C'est Dieu qui a parlé. Il a dit. Alors je le crois. Parce qu'il l'a dit. N'importe qui aurait dit cela, j'aurais dit il est fou. Mais c'est Dieu qui a parlé. Alors il est tout pouvoir est entre ses mains. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu qui a donné son Fils pour nous. Il est le Dieu qui nous reçoit dans ses bras et qui nous appelle ses fils et ses filles. Et qui nous dit entre dans la joie. Entre dans la communion avec moi. Passe un peu plus de temps. Ne reste pas à ces choses qui t'accaparent, qui te captivent et qui te ruinent ta vie. Prends possession de ton héritage. Prends possession du pays que j'ai mis devant toi. Jusqu'à quand allez-vous tarder à prendre ce pays, à conquérir tout cela? Tout est devant vous. Vous avez devant vous l'Évangile. C'est la puissance de l'Évangile. Et souvent nous annonçons l'Évangile comme le moyen pour être sauvé et être réconcilié avec Dieu. Et c'est vrai, et il faut le faire. Mais il y a un autre aspect de l'Évangile que nous négligeons. C'est celui de toutes les promesses et de tout. L'Évangile ne s'est pas arrêté à notre conversion. L'Évangile continue. L'Évangile, nous le recevons encore. Nous avons encore aujourd'hui les effets de l'Évangile. Nous avons encore le bénéfice de l'Évangile. Nous avons encore des promesses à saisir. Nous avons encore des territoires à conquérir. Et nous avons encore à mettre en déroute l'ennemi par la victoire de Jésus-Christ à la croix, par la foi. Je me confie en Dieu. Je regarde vers toi. Seigneur, viens à mon secours. Éclaire-moi. Donne la lumière. Je ne sais plus où j'en suis. Si ce sont vos prières, alors rassurez-vous, il y a une solution. La porte n'est pas fermée. Vous avez peut-être des questions, mais votre Dieu a les réponses. Vous avez des troubles, vous avez votre âme dans l'angoisse, dans la difficulté, mais votre Dieu est toujours là. Il est toujours votre Père. Il a compassion de vous. J'ai un fils. Je termine là. J'ai un fils. Je l'aime. S'il me demandait quelque chose qui est selon mes moyens, il a besoin. Est-ce que vous croyez que je vais lui refuser? Je lui dirais, écoute, tu reviendras la semaine prochaine. Mais je suis un père. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? À bien plus forte raison. C'est une promesse, hein, c'est une autre, je vous la passe, à bien plus forte raison. Si les pères humains sont capables d'avoir compassion de leurs enfants, les pères humains normaux, hein, parce qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait comme il faut, mais un père humain normal, eh bien, a compassion de son enfant, à bien plus forte raison, votre Père Céleste a-t-il compassion de vous et écoute-t-il votre prière? Bien sûr. Il y a des moments où vous priez avec orgueil. Vous priez pour des choses dont vous n'en avez pas besoin. C'est juste pour... c'est un caprice. Alors, il est bien évident que si mes enfants m'avaient demandé quelque chose par caprice, je leur ai dit un jour, mes enfants, le mot caprice ici n'existe pas. Caprice, c'est une fessée. C'est tout ce qu'on obtient. Rien d'autre. Alors c'est perdu d'avance. C'est même pas la peine d'essayer. Alors il n'y avait pas de caprice. Tout se passait gentiment et normalement, parce qu'il n'y avait pas de caprice. Et notre Dieu, si un père humain ne laisse pas faire des caprices, a bien plus forte raison notre Père Céleste. Nous sommes ses enfants. Il y a des relations paternelles avec Dieu. Et nous nous adressons à Dieu. Et nous lui disons, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide. Tout ce qui est légitime, ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui glorifie Dieu, alors croyez que Dieu veut le mettre en réserve pour vous.